100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour. Entre l'Europe et la Turquie, la tension est à son comble alors que depuis vendredi, des milliers de migrants affluent vers la frontière grecque. Encouragés par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a annoncé l'ouverture de ses frontières avec l'Europe et même affrété des bus, Ankara veut ainsi mettre la pression sur l'Union européenne pour obtenir son soutien dans le conflit en Syrie où plus de 50 soldats turcs ont été tués le mois dernier. C'est donc un véritable marchandage politique qui se joue à la frontière grecque. Et première victime, les migrants. Depuis vendredi, ils sont au moins 15 000, selon l'ONU, bloqués à quelques centaines de mètres de la Grèce à la recherche d'un point de passage vers l'Europe. Reportage de notre correspondante Anand Lauer au poste frontière de Pazarkoule, côté turc.
Les détonations des grenades lacrymogènes de la police grecque, c'est le signe que la frontière n'est plus qu'à quelques minutes de marche, au-delà d'un no man's land où s'amassent depuis plusieurs jours des milliers de migrants. Souleyman, un père de famille iranien, préfère rester en retrait. Son épouse est malade, ses deux filles apeurées. Ils ont passé deux nuits dehors, dans le froid et la confusion.
On nous a dit que c'était ouvert. On est venu et depuis, on ne sait rien. On est malheureux, les enfants sont malheureux.
Le vent qui balait ce matin-là les terres fertiles de l'Evros, le fleuve qui dessine la frontière entre la Turquie et la Grèce, transporte les odeurs de soujouk, une saucisse séchée de viande rouge. Il transporte aussi les émanations piquantes des gaz lacrymogènes. Certains migrants portent un masque en tissu, d'autres en cherchent un. C'est le cas de Sabawan, un Afghan de 26 ans. En Turquie depuis 5 mois, après un voyage éprouvant, il ne sait plus quoi faire, où aller, qui croire.
J'ai traversé la frontière avec le Pakistan, puis avec l'Iran, puis je suis entré en Turquie. J'ai été arrêté à Adana et envoyé dans un camp à Malatya. J'y suis resté 48 jours. Puis les autorités turques m'ont donné un papier m'ordonnant de quitter le territoire sous 15 jours. Et maintenant, ils ouvrent la frontière. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas quoi faire. La Turquie ne nous autorise pas à rester. L'Europe ne nous autorise pas à rentrer. Que faire? On est coincé ici.
Sabawan, il est très fatigué, a une question qu'il pose inlassablement à tous les Européens qu'il croise.
En 2015, les gouvernements allemands, français, belges avaient envoyé des minibus, des bus, même des trains pour aller chercher les réfugiés ici et les amener dans leur pays d'Europe. Y a-t-il la moindre chance aujourd'hui pour qu'ils nous sortent d'ici ?
Salim, lui, est en colère. Ce jeune Kazakh de 19 ans, vêtu d'un sweat à capuche noire, s'était réfugié à Istanbul il y a 2 ans. Dès que la Turquie annonçait l'ouverture de sa frontière, il a accouru. Il se sent piégé.
On nous a trompés. On a cru que la porte était vraiment ouverte, mais en fait, il n'y a rien. Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. Il n'y a rien à faire. Comme je n'ai plus d'argent, je ne peux même pas rentrer à Istanbul.
Salim est amer. Sur son téléphone portable, il reçoit sans cesse des appels d'amis ou de connaissances qui lui demandent où aller, comment faire pour passer de l'autre côté. À tous, il répond la même chose.
Je leur dis de ne pas venir. Parce qu'ici, d'un côté, les Turcs nous utilisent. Et les Grecs en face nous utilisent. Tout le monde profite de nous. Les chauffeurs de bus, de taxis, la police, même les vendeurs de cigarettes profitent de nous. J'ai envie de dire à ces pays, soit vous ouvrez la porte pour qu'on entre, soit vous arrêtez de vous servir de nous. Ce qu'ils font, c'est du trafic et de la politique. La Turquie, la Grèce, l'Union européenne, chacun pense à ses intérêts et nous, on brûle ici.
Aux abords du poste frontière, une file de taxis jaunes attend les plus découragés, ceux qui rebroussent chemin. Ce n'est pas l'intention de Mohamed, un Somalien de 22 ans qui a tenté en vain de franchir le fleuve Evros.
Les militaires grecs ne nous ont pas laissé passer. On attendra jusqu'à ce qu'ils nous autorisent à entrer en Grèce ou qu'un autre pays nous accepte. Je n'en sais rien. Mais on attendra ici jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose.
30 kilomètres plus loin, près du village de Doiran, quelques 200 personnes sont installées dans l'herbe au pied d'un silo à grains. En contrebas, le fleuve. Fouad, un Syrien de 18 ans, contemple les bois grecs juste en face. En haut d'un mirador, un soldat guette les eaux tranquilles.
C'est très proche, mais si difficile à atteindre. Il n'y a que 10 mètres à parcourir, mais cela n'a rien de simple.
Fouad arrive de Konya, au centre de l'Anatolie. Il a mis toutes ses économies, 3 000 livres, soit 430 euros, dans ce voyage vers la frontière.
Je suis venu parce que j'ai entendu que certains arrivaient à passer le fleuve. Un chauffeur de car nous a dit « Descendez ici, vous passerez immédiatement ». Mais les soldats grecs tirent en l'air. Ils crient « N'approchez pas, n'approchez pas ».
Mohamed Emir, lui, a tenté la traversée à bord d'un bateau de fortune. C'était la nuit dernière et il en tremble encore.
On n'est pas nombreux ici, mais dès que les Grecs nous attrapent, ils nous punissent. Ils m'ont pris tout mon argent, mon téléphone, ils m'ont battu. À 1h du matin, nous étions 400 à être renvoyés en Turquie par la frontière terrestre.
Ce jeune Afghan assure pourtant que cette traversée n'était qu'un test. S'il n'avait pas été repéré, il comptait revenir pour chercher sa famille. Un fils de 10 ans, une fille de 2 ans et demi et son épouse, Julia. Elle dort sous une tente de fortune. Elle est enceinte de 9 mois.
Et côté grec, le gouvernement conservateur est bien décidé à ne pas laisser passer cet afflux de migrants et de réfugiés. Il a d'ailleurs demandé le soutien de l'Europe. Depuis vendredi, des hommes grenouilles, mais aussi des forces de l'armée et de la police, ont été déployés pour ratisser le fleuve et la frontière terrestre de 212 km qui séparent la Grèce de la Turquie. Ces deux derniers jours, 1200 personnes ont tout de même réussi à atteindre les îles grecques, mais elles sont particulièrement mal accueillies par des habitants excédés, comme nous l'explique Joël Brunner à Lesbos.
Depuis ce week-end, les incidents se sont multipliés à Lesbos. Une petite partie des habitants se sont à présent constitués en milices apparentées à l'extrême droite. Certaines d'entre elles n'hésitent pas à commettre des violences contre des migrants, des ONG ou des journalistes. Des bateaux de demandeurs d'asile ont ainsi été empêchés d'accoster, comme à Termis, dans l'est de l'île. Des journalistes à l'image de ceux du Spiegel ont été agressés et un ancien centre d'accueil de migrants sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés a été incendié près du village côtier de Skala. En parallèle, des demandeurs d'asile de plus en plus nombreux à s'entasser autour du camp de Moria dénoncent avec une virulence renouvelée leurs conditions de vie. Alors qu'ils souhaitaient manifester lundi en direction de Mytilène, la capitale de l'île, ils ont été bloqués par un cordon de policiers faisant régulièrement usage de gaz lacrymogène. Ces réfugiés de plus en plus en colère demandent qu'on les libère de ce qu'ils considèrent être une prison aux conditions de vie effroyables. La semaine dernière déjà, l'île de Lesbos s'était secouée par des manifestations suivies de violences. Une partie des habitants de l'île exprimait alors leur opposition au projet de construction d'un nouveau camp, théoriquement fermé, pour remplacer celui insalubre et surpeuplé de Moria, qui compte près de 20 000 demandeurs d'asile. L'annonce par la Turquie de l'ouverture de ses frontières à destination de l'Europe, les premières arrivées qui en ont découlé et l'idée que bien d'autres encore pourraient suivre, a ensuite été la goutte d'eau qui a rendu l'atmosphère de l'île encore plus irrespirable. Habitants excédés d'un côté, demandeurs d'asile à bout de l'autre, tous les éléments sont réunis pour que Lesbos continue de s'enflammer.
Et pendant ce temps, un peu plus au nord, il y a des milliers d'autres réfugiés bloqués cette fois en Bosnie ou en Serbie. Bloqués depuis qu'en 2016, l'Union européenne a verrouillé la route des Balkans, cette voie d'accès vers l'Europe, via la Hongrie ou la Slovénie. Résultat, en Serbie, beaucoup de jeunes adultes cherchent à s'intégrer et ont décidé d'apprendre le serbe. Louis Seyé s'est rendu dans l'une des rares ONG qui aide ces réfugiés à Belgrade.
Bonjour, je m'appelle Massi, je viens d'Afghanistan. Je vis à Belgrade. Là, j'apprends le serbe et l'anglais. J'aime beaucoup les Serbes.
Un bonnet enfoncé sur ses cheveux bouclés, Massi aime parler en serbe. Ce jeune Afghan s'est retrouvé bloqué dans ce pays dont il n'avait presque jamais entendu parler. Depuis quelques mois, il vient tous les jours dans le centre de Belgrade prendre des cours de serbe.
Le serbe ? Parce que j'habite ici, en Serbie. Oui, c'est pour ça que je dois apprendre cette langue. Au total, ça fait 3 ans et demi que je suis là, près de 4 ans, depuis 2016.
L'espoir d'une vie meilleure en tête, Massi a traversé l'Iran, la Turquie, la Bulgarie. Exténué par ses tentatives de rentrer en Union européenne, il a décidé de s'intégrer à la vie de Belgrade. Aujourd'hui, il ne se voit plus repartir.
Avant, je travaillais en usine, mais maintenant je travaille dans un fast-food. Vraiment, j'aime beaucoup les Serbes, ils sont si sympathiques, ils aident. J'aimerais rester ici. Ouais, je veux rester ici.
Massi attend toujours avec impatience son cours de serbe avec Mina.
Comment tu vas, quoi de neuf ?
Je vais bien, merci.
Au printemps 2016, l'Union européenne décide de fermer la route des Balkans. Depuis, la Hongrie a installé des barbelés tout le long de sa frontière. Et des milliers de réfugiés venus d'Afghanistan, de Syrie ou d'Irak se retrouvent bloqués en Bosnie ou en Serbie. La Serbie n'était pas vraiment préparée à accueillir ces nouveaux venus. Mina Miric est la responsable de l'une des rares structures qui vient en aide aux réfugiés, le Workshop Belgrade.
La Serbie, même d'après les derniers rapports de l'UNHCR, est toujours considérée comme un pays de transit pour la plupart des réfugiés. Vous avez dû entendre ces histoires des migrants repoussés aux frontières. La plupart des migrants considèrent la Serbie comme un pays de transit. Mais nous avons des étudiants qui ont décidé de s'installer ici.
Des jeux pour les plus jeunes, des cours de serbe. Les volontaires du Workshop Belgrade enseignent aussi l'anglais, l'allemand ou le français. Depuis l'ouverture du centre en 2017, Mina Miric a vu arriver de plus en plus d'adolescents.
Ils viennent chez nous pour des raisons très différentes. Les plus jeunes d'entre eux vont à l'école en Serbie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. En ce sens, ils ont besoin de soutien extrascolaire. La langue serbe est très difficile et beaucoup d'étrangers trouvent que sa grammaire est particulièrement déroutante.
Arrêté à la frontière par la police slovène, Abdul Malik a été renvoyé vers la Serbie. Depuis quelques mois, cet Algérien de 16 ans est scolarisé dans une école de la périphérie de Belgrade. Conversation en français, au cours de grammaire serbe, il apprécie l'aide des bénévoles du workshop. Mais il se sent toujours un peu perdu.
La vérité, je ne connais pas la Serbie, la langue, les jeunes, la situation. Je ne connais pas. Rien du tout. Oui.
Début février encore, des centaines de migrants ont tenté de forcer le passage de la frontière hongroise. Mais ils ont été renvoyés en Serbie par la police. Comme eux, Abdul Malik ne se voit pas rester en Serbie. L'absence de perspective et les salaires trop faibles ne l'attirent pas.
La situation, c'est pas bien pour les migrants, pas bien pour l'avenir. Par exemple, le travail, pas travail ici, le salaire, pas bien. Comme l'Afrique, c'est la même chose. Pas beaucoup de différence la situation.
En 2019, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé à plus de 30 000 le nombre de nouveaux arrivants en Serbie, soit près du double de l'an passé. Manque de moyens financiers et de volonté politique, le pays a du mal à gérer la situation et des tensions apparaissent, notamment dans les villes frontalières. Mina Miric.
Il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de gens ne savent pas encore qui sont vraiment les réfugiés, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Il y a encore beaucoup d'a priori, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger.
Avec cette nouvelle vague d'arrivées, les capacités d'accueil de la Serbie, déjà limitées, se retrouvent mises à mal. Et conséquences politiques, ici aussi, une extrême droite locale commence à agiter le discours anti-migrant. En ligne de mire, les élections générales prévues en avril.
En France, l'Académie nationale de médecine tire la sonnette d'alarme. Pour cette institution prestigieuse, la santé des migrants est devenue un problème majeur de santé publique. Dans un rapport, l'institution demande donc au pouvoir public de mieux faire et leur adresse 8 recommandations, Juliette Rangeval.
Oui, parmi ces recommandations, Léa Lisa, l'Académie appelle d'abord à la révision du règlement de Dublin. C'est un document qui a été signé en 2013, il est très controversé. Il délègue la responsabilité de l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qu'il a accueilli. Pas question, par exemple, de demander l'asile en France si vous êtes arrivé sur le continent par la Grèce. Une procédure qui limite de facto l'accès aux soins et à la couverture médicale. Et c'est une autre recommandation du rapport, l'appel à la création d'une protection maladie réellement universelle, immédiate et inconditionnelle qui rassemble les dispositifs existants. Le texte demande également au pouvoir public de permettre à tout demandeur d'un titre de séjour en France en situation régulière ou pas, de bénéficier dès son arrivée d'un hébergement décent, d'un examen médical et d'un accès aux soins avec un interprétariat adapté.
Merci Juliette Rangeval.
Sono Mucona, sono la cugina di Amuchina. Sono il nuovo bene rifugio degli italiani. Sono già nel paniere dell'Istat.
Si sei molto desiderata.
Et sur un tout autre sujet d'actualité, c'est un effet secondaire de l'épidémie de coronavirus en Europe. La rupture de stock de gel antibactérien. En Italie, depuis le début de l'épidémie dans le nord du pays, ces flacons de désinfectants sont devenus une véritable obsession nationale. Amuchina, c'est le nom de ce liquide, symbole de la fébrilité des citoyens. Et c'est notre mot de la semaine. Notre correspondante à Milan, Francine Beretti, nous explique tout.
Je vis en Italie depuis 3 ans et pourtant, Amuchina, je ne connaissais pas. Jusqu'à l'arrivée du coronavirus. Car maintenant que je l'entends une dizaine de fois tous les jours, le mot est bien rentré. Si vous proposez le terme à un traducteur en ligne, il vous indique hypochlorite de sodium. Oula, on va faire plus simple. Nicole est française, elle vit en Toscane depuis presque 40 ans, et comme elle est femme de ménage, la Amuchina, elle maîtrise.
La Amuchina,
C'est la marque d'un désinfectant. C'est la même chose que l'eau de Javel, mais c'est beaucoup plus dilué. Moi, je l'utilise au travail parfois pour nettoyer les WC.
La Moukina est au désinfectant ce que le scotch est au papier adhésif, le nom d'une marque que tout le monde utilise comme un nom commun. Si vous êtes quelqu'un sans névrose particulière, a priori, ce produit ne vous sert qu'en voyage ou dans votre salle de bain. Ça, c'était avant le coronavirus. Maintenant, tout le monde veut sa petite bouteille. Depuis 2 semaines, impossible de trouver le moindre désinfectant pour les mains. Les rayons des supermarchés sont vides et les pharmacies mettent des panneaux pour annoncer la rupture de stock. Forcément, certains en profitent.
Extrêmement recherché et introuvable, vendu ces jours-ci sur Internet à prix d'or, 3 jours après l'apparition des foyers de coronavirus en Lombardie et en Vénétie, les liquides et gels pour se désinfecter les mains sont parmi les produits les plus vendus, mais les prix sur Internet font scandale.
Le prix d'un flacon de 80 ml d'Amukina sur Amazon la semaine dernière, 23 euros. En temps normal, c'est 8 fois moins. Alors sur les réseaux sociaux, les recettes grand-mère circulent.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans Réponse à tout, on va voir comment fabriquer à la maison un désinfectant pour les mains similaire à la Moukina.
Si vous voulez tester, il vous faut de l'alcool pour liqueur, le même que pour faire le limoncello, des fois que vous le fabriquiez vous-même, de l'eau oxygénée et de la glycérine. Ensuite, il faut jouer au petit chimiste, facile. Ah non, en fait, non, ne le faites pas. L'Institut supérieur de la santé italien le déconseille. Reste à se laver les mains, bien se laver les mains. Ça n'est pas évident. C'est Barbara D'Urso, la star de la télé du dimanche, qui fait la démonstration. Un peu comme si Michel Drucker vous expliquait comment vous brossez les dents. Incongru.
Lavare. Bene così, naturalmente, palmo contro palmo, poi bisogna, guardate, così.
Reste à rire de tout ça, et les Italiens sont assez bons. Sur les réseaux sociaux, on trouve les vidéos qui se moquent de cette ruée vers la Moukina.
Chero.
Genna. La da guerra.
Il y a par exemple cette parodie de la série Gomorra, tirée de l'enquête de Roberto Saviano, une incursion dans la mafia napolitaine. Dans cet extrait, la Moukina est devenue la nouvelle drogue que tout le monde s'arrache et un mafieux veut impliquer un autre dans ce business juteux, le business de l'or transparent, comme il dit. Sur Twitter, le mot-clé « Ciné à Moukina » propose des titres de films revus par l'épidémie. Le bon, la brute et le contaminé, le patient zéro, plutôt que le patient anglais, quand Harry désinfecte Sally, vous voyez l'idée. La plus grosse blague du coronavirus concerne les penne liche. Ce sont des pattes de quelques centimètres en forme de tube droit, des penne donc, mais lisses, pas striées. Elles accrochent moins la sauce. Aucun intérêt pour un Italien. Le rayon pâtes des supermarchés est dévalisé, mais les paquets de penne liche restent, seuls, au milieu du vide. Ça fait beaucoup rire ici. Certaines émissions proposent même de les réhabiliter.
Les penne lisses sont le genre de pâte le plus incompris des consommateurs italiens. Et pourtant, la chose incroyable, c'est que les penne striées sont arrivées après. C'est l'industrie qui les a inventées, mais le format original, ce sont les lisses.
Allez, pour finir en chanson, voici une version du chant des partisans revue par l'actualité. Il est question d'Amukina, qui débarrasse du virus, mais qui coûte le prix d'un iPhone. Nouveau temps, nouveau combat.
Una Moukina, mi son comprato. Virus, ciao, con la Moukina, so indebitato. Costa quanto un iPhone.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter à toute heure et partout, abonnez-vous à notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À demain!
Tout à l'heure sur RFI.